Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 8, triomphe de la femme. C'est très logiquement que le christianisme, conçu, né de la Vierge, a fini par l'Immaculée. Marie le contient et l'embrasse, et la mère de Marie, leurs mères en remontant. Une longue incubation féminine, un enfantement continué, amena cette création qui ne doit rien à l'homme, comme on le dit en toute vérité, sortant uniquement de la femme. Jusqu'en 369, dans l'Église grecque orientale, qui est l'Église mère, la femme a été prêtre. Et il n'y eut jamais sacerdoce plus légitime. Elle est le vrai prêtre chrétien. Qui mieux qu'elle peut expliquer, faire sentir, adorer ce qu'elle a fait elle-même? C'est dans ses premiers siècles et par cet enchantement que fut vaincue l'idole antique. Aucune divinité de marbre ne put tenir debout quand la grâce vivante officiait elle-même à l'autel. Marie fut ajournée, mais pour revenir plus puissante. Elle règne à la fin. On lui fait cet aveu qu'elle est tout le christianisme. Saint Dominique déclare qu'en son sein, il a vu le ciel plus que le ciel. Il y voit les trois mondes, purgatoire, enfer, paradis. Les scolastiques sont ridicules lorsque, voulant délirer sagement, ils gâtent la folie de la croix, l'élément féminin, la grâce, par un alliage impossible de raison mâle et de justice. Comment n'ont-ils pas vu qu'à chaque pas qu'ils font hors de la grâce pour masculiniser Jésus, ils sortent de sa religion, sont des raisonneurs, des juristes. Saint Thomas, qui usa sa vie dans cette impossible entreprise, un triangle sans angle, se repentit mourant, se remit à la grâce et ne se fit lire à ses derniers moments que le cantique des cantiques. La femme solitaire a, de son chaste sein, vu surgir son génie, son ange et sa jeune âme, âme parlante, qui en naissant enseigne, qui apprend à sa mère tout ce qu'elle savait elle-même. Il est son doux reflet qui ne s'est distingué d'elle que pour être aimé davantage. À 12 ans, embellie, il est tout à fait elle. Et cependant, son maître, sa leçon, son petit docteur, elle le pose devant elle afin de se mettre à ses pieds. Et que le voilà grand, beau, un noble adolescent avec de longs cheveux qu'on dirait de sa mère, avec un regard triste et grave. Est-ce son fils? Le sait-elle encore? Elle aimera bien mieux qu'il soit tout autre chose. Un maître charmant et sévère, un peu craint, mais si doux. Quelle volupté d'être enseigné, d'obéir, d'avoir non pas peur, d'être timide seulement. C'est plus ou c'est moins que l'amour, effet de blonde lune où se mêle un reflet affaibli du couchant. Plusieurs, dès ce temps-là, y voyaient un mirage. Comme si ce n'eût été que l'âme de Marie se mirant elle-même, se parlant, s'enseignant, s'aimant et se créant hors de soi pour pouvoir s'aimer. Cela avait pour les cœurs tendres l'avantage de leur laisser croire qu'ils n'avaient pas souffert et que la passion fut un mirage aussi. Les Docettes le crurent, pensant que Dieu, compatissant, n'avait pu torturer son fils, qu'il n'avait pu livrer qu'une ombre aux férocités de la mort. Question curieuse que rien n'éclaircira, qui sera débattue, incertaine éternellement. si l'on insiste, si l'on veut, comme mon ami M. Renan, qu'il ait vécu, souffert, le point essentiel pour l'établir dans le réel, c'est de le replacer en sa mère, de lui redonner le sang chaud, le lait tiède, de le suspendre au sein de la rêveuse de Judée. On s'étonne de voir que l'ingénieux galvaniseur, de fines et caressantes mains, en refaisant l'enfant, lui refuse sa mère. Mais sans Marie, point de Jésus. Les premiers pères, Origène, Épiphane, Grégoire de Nice, n'ont nullement rejeté l'évangile de Marie, écrit par Jacques, fils de Joseph. Ils l'appellent le premier de tous. Et il en est en effet l'introduction naturelle. Pourquoi l'Église d'Occident, robuste de foi certes, et qui admet tant de miracles, rejette-t-elle ce petit livre parmi les apocryphes? Ses aînés, les églises antiques d'Orient, l'acceptent sans difficulté et l'ont traduit en syriaque, arabe, etc. Nos savants du XVIe siècle ont dit nettement que c'était la base de tout. La vraie préface de saint Marc. Il est innocent, amusant. Il n'est pas monstrueusement doctrinal et gnostique comme l'évangile de Jean. Postel dit que c'est une perle. Et il est sûr que c'en est une pour qui veut un Jésus vivant. Sans cette base maternelle, il semble une ombre transparente. Les romans juifs ont une grande portée. Le roman d'Esther, calculé, très significatif, donne la clé de l'histoire des mœurs. Du fond de l'Orient, du sérail, il éclaircit tout. Le roman de Marie, si l'on veut l'appeler ainsi avec l'Église latine, n'est pas moins instructif. On y sent l'éternelle Marie qui était dans l'âme juive. Nous l'avons dit plus haut, la singularité de ce peuple, c'est que derrière les formes si mâles de la loi et ses tables de pierre, l'aspect rébarbatif des chérubins affreux à face de taureau, il a en lui les féminins soupirs, les vœux du salut gratuit et l'attente de la délivrance par la grâce imprévue d'en haut. Les peuples ne se classent nullement, pas plus que les cristaux, par leur forme extérieure, mais bien par leur noyau. Ici, sous l'enveloppe hérissée, sous les angles, les pointes, vous trouverez au fond la grâce, l'élément féminin. C'est Marie simulant la barbe d'Aaron. L'Orient était très usé. Les Juifs faisaient illusion. Mais eux-mêmes, on le voit par leur Néhémias, se dévoraient d'usure dans Jérusalem en ruine. La razzia que Ptolémée en fit pour son Égypte, l'immonde barbarie d'Épiphane qui souilla tout, aplatirent nombre d'âmes, et moralement les Maccabées ne les relevèrent pas. Le règne des Iduméens, confirmé, appuyé de Rome, de la Rome éternelle, les scellait à jamais sous la pierre du sépulcre. Dans les esprits malades, le démon Légion s'agitait, sévissait, partout dépossédé. Cela même attirait. Nombre de Juifs d'Égypte et d'Orient et des non-Juifs aussi affluaient à Jérusalem. L'orgueil et la hauteur du temple repoussaient. Les pharisiens, le parti de la loi, de la patrie, de la liberté juive, parti sincère mais violent, n'offrait que dureté, sécheresse à ceux qu'il voulait convertir. On aimait mieux entendre dans les petites synagogues les rabbis, faciles, indulgents, doublement populaires par les dispenses de la loi et leur satire des hauts docteurs. Tel était le rabbi Hillel, un prédécesseur de Jésus. Tel son cousin saint Jean-Baptiste. Les leçons de ces maîtres n'étaient nullement nouvelles. Il disait ce que les prophètes, Isaïe, avaient dit à merveille. Le cœur fait tout, et comme font vos sacrifices. Le précepte d'aimer son prochain comme soi-même, précepte de Confucius, des stoïciens, est très spécialement donné chez les Juifs par le Lévitique, et pour l'étranger même, dont les idées, les rites répugnaient tant aux Juifs. Le Juif l'aimera comme lui-même. Lévitique 19:34. Le précepte de rendre le bien pour le mal est partout,
surtout dans Manou,
6,92. Le maître populaire paraît guidé, il suit. Il est bon gré malgré l'écho de la pensée du peuple. Celui-ci trouvait lourd le joug des pharisiens qui faisaient des vertus mosaïques la condition du salut, qui imposaient les œuvres, œuvres dans les deux sens, les œuvres de la loi et les œuvres de charité. Le rabbi n'imposait, n'exigeait rien, disait « Aimez, croyez, tous vos péchés vous sont remis ». Mais qu'aimer? Mais que croire? Ici, nulle formule précise. Aimer le maître et croire le maître. Pour symbole et credo, prendre la personne elle-même, credo vivant. C'est le sens très exact de tout ce qu'a écrit saint Paul, qu'on a traduit par un mot à merveille. Jésus n'enseigna que lui-même. Le mot est de Renan. Le rabbi s'enseignait. Vous auriez demandé à ces troupeaux de femmes, de simples, « Que crois-tu ?» Ils auraient répondu, « Je crois le maître Hillel, je crois Paul, ou je crois Jésus. » La personnalité est un mystère étrange. Le génie, la beauté, souvent y font bien moins que certaines effluves inexplicables. Rien ne donne une plus vive impulsion aux grands courants de fanatisme. Le messie polonais, vrai saint, qui de nos jours entraîna les plus grands esprits, avait cela. Un messie russe de notre temps lutte aussi, du reste homme nul. Il n'eut pas moins cet effrayant succès de se voir malgré lui suivi de 10 millions de cerfs. Dans la brillante polémique de 1863, où le livre de M. Renan donna un si grand mouvement, je regrette deux choses. Premièrement, qu'on se soit tenu tellement dans l'histoire, en parlant peu de la doctrine. Mais la doctrine est tout, tant vaut-elle, tant vaut le docteur. Deuxièmement, je regrette qu'en se tenant dans la biographie, on en ait écarté les petits évangiles populaires qui, tout grossiers qu'ils sont, donne plus que les officiels le réel état des esprits. Je n'y suppléerai pas, ce n'est pas mon affaire. Je remarque seulement combien le primitif évangile, en y joignant tel mot de la nativité et de la vie du charpentier, caractérise fortement ce monde de femmes. Trois femmes commencent tout. Anne, mère de la Vierge, Élisabeth, sa cousine, mère de Saint-Jean, et une autre Anne, prophétesse et femme du grand prêtre. L'avant-scène se passe évidemment autour du temple et sous sa direction. Les familles dont il s'agit lui sont soumises. Les femmes croyaient les temps venus, croyaient qu'une grande merveille viendrait d'elles, étaient malades de leurs rêves, en étaient comme enceintes et brûlaient d'enfanter. Le temple, dans sa politique, voyant les choses mûres, espérait, désirait que rien ne se fît que par lui. La condition messianique d'être âgé jusque-là stérile, précisément se trouve dans les cousines Anne et Élisabeth. Stérilité voulue et calculée, selon la petite prudence que conseille l'ecclésiastique. Les gens du temple en font honte à Zacharie et à sa femme Anne, qui devient mère de Marie. La petite Marie, riche héritière, donnée au temple, y reste de 3 ans à 12. Ne pouvant alors la garder parmi les fils des prêtres, près du fils du grand prêtre à qui on la destine, ils forcent un homme à eux, Joseph, un charpentier du temple, de la recevoir. Il a des fils, mais des filles aussi. Sa femme meurt, ses enfants se marient, sauf un grand-fils Judas et un petit Jacques, que la bonne petite Marie console, adopte, élève. Marie, qu'on ne perd pas de vue, travaille pour le temple. Elle a une besogne de confiance, tisser la pourpre, matière fort chère, pour le grand voile du Saint des Saints. Là, un petit tableau de sa vie d'ouvrière. Elle prie le matin aux heures pures, elle prie le soir aux heures mystérieuses. Elle travaille dans la chaleur de 9 à 3, mange à peine le soir. on croit lire la vie d'une petite béguine de Flandre. Ces pieuses ouvrières, dans la nuit de leur cave, versaient leur cœur trop plein en petits chants d'enfance, appelés les chants de Lolo. La pauvre fille de Judée, chantant moins, gardant tout, par moments éclatait comme neige de blanche lumière qu'à peine soutenait le regard. On peut deviner ses pensées. Sa vieille cousine Élisabeth, qui n'eut jamais d'enfant, depuis 6 mois était enceinte. D'un prophète, d'un précurseur, on pouvait bien le supposer. On ne parlait que de miracles, de messie et d'incarnation. L'air en était chargé et lourd. À l'heure ardente où cessait le travail, aux longues heures de l'après-midi, ces heures malades où languissent les moines, dit Cassien, que rêvait cet enfant ? Déjà 16 ans en était venu, que voyait-elle ? La céleste colombe ? L'éclair divin, ou le soir l'ange qui lui portait la nourriture. Tout cela est pur et touchant dans les petits évangiles. En certains points, ils ont le signe du peuple plus que les officiels, plus de nature et de cœur. Ils ont bien soin de dire que Joseph et Marie ne se sont pas mariés. Ils écartent l'idée d'adultère. Très sage prévoyance, qui aurait rendu la légende moins dangereuse, prévenant les risées indécentes, les Noëls bouffons qui, pendant tout le Moyen-Âge, avilissent le mariage. Autre eût été le sort, la féconde portée de cette religion de la femme, si, au lieu de sevrer sèchement et brusquement Jésus, comme ils font tous, il lui avait donné le lait de la nature. Il eût été plus homme. Que de belles et utiles fables on aurait pu faire là-dessus. Il eût fallu du cœur, de la bonté, de la tendresse. Et c'est là ce qui manque. Il y a de l'amour, ce qui est autre chose. Amour n'est pas bonté. C'est souvent une ardeur sèche, parfois violente et colérique. Rien de plus vraisemblable que le voyage d'Égypte. L'Égypte est à 2 pas par mer, on y allait sans cesse. Philon, le juif égyptien, avait sous forme plus savante la doctrine de Jésus, de Paul. Moïse, on le disait expressément, s'était formé en Égypte. De là la précocité de Jésus qui, à 12 ans, enseigne et fait taire les docteurs, comme Daniel, enfant, fait taire les juges. Sa mère, après l'avoir sans doute animé et lancé, ses frères alors voudraient l'arrêter, pauvre mère, et pourquoi lui dire des mots durs ? Sa mère, sa sœur, désormais, c'est la foule. Il est suivi par la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. Il est suivi avec enthousiasme par des dames qu'il charme et console. Elles sont fort intéressantes. Les unes, femmes de magistrats, associées, hélas, bon gré mal gré, à 1000 choses injustes et cruelles. Elles se jettent et se donnent à ce jeune rabbi, à la douce doctrine qui lave et efface tout cela. Elles le suivent, ne peuvent le quitter, le nourrissent. Plus ardemment encore, il est suivi de dames misérables, malades de leur vie impure, de leur péché, agitées, possédées, en qui la vie désorganisée semble démoniaque. Telle fut l'infortunée Marie de Magdala, qu'on appelait la courtisane, et qui, comme il arrive alors, doit être une affranchie rachetée, retirée de ce cruel métier. Sa vive effusion de cœur et de reconnaissance, ses parfums dont Vivane le l'embaume d'avance et qu'elle essuie de ses cheveux, c'est une très belle histoire, passionnée et qui fait contraste avec la froideur dont la Vierge est l'objet dans les évangiles. Suite logique du reste de toute la tradition juive où les préférences sont moins pour le juste et l'irréprochable que pour celui qui, ayant péché beaucoup, a beaucoup à faire pardonner et fait mieux éclater la grâce. Selon saint Jean, la Madeleine fut l'unique témoin de la résurrection. Elle le vit seule des yeux de son cœur. Le monde a cru sur sa parole. Les douteurs violents passent vite à la crédulité. Les hommes, soi-disant positifs, par un revirement très fréquent, sont volontiers visionnaires. Paul, juif de Tarse et fabricant de toiles, homme fier et violent, dans ses voyages de commerce, montrait un grand zèle pharisien. Il eut le malheur d'avoir part à la lapidation de Saint-Étienne. La figure du jeune martyr, dans toute sa navrante douceur, resta sans doute empreinte en lui et ne le quitta plus. Un orage, une chute, une lueur, accident si commun, le bouleversèrent. Autant il était furieux zélateur de la loi, autant il est ardent, colère, impérieux dans la grâce. Un tel homme appartient aux femmes, et en effet, les actes et les épîtres le montrent toujours avec elles. Elles semblent le garder à vue. Thècle le suit comme une sœur et remplit près de lui l'humble devoir de Marthe, sinon ceux de Marie. Dans toute cette histoire, la personnalité de cet homme fougueux est curieuse par ses variations. Son unique combat est contre l'esprit grec et, comme il le dit bravement, contre la raison. Dans ses manifestes aux Grecs, il fait précisément comme David dansant devant l'arche, se vantant de folie et se disant fou pour Jésus, car la folie de Dieu est plus sage que l'homme. Tout cela emporté, éloquent, fort naïf, montrant tout l'intérieur, les difficultés très réelles d'un homme honnête et pur dans une société de femmes ardentes et passionnées. En Macédoine, où il écrit, il est entre deux femmes, Lyda, chez qui il loge, et la pâle, Chloé, chez qui s'assemblait la petite église. Ce sobriquet, la pâle, semble d'une affranchie retirée et sans doute riche, comme fut Marie de Magdala. Au début, il se vante, en conseillant la continence, d'être au-dessus de tout cela. À tort, il confesse plus tard qu'il a dans la chair une épine, que l'ange de Satan, pour qu'il ne soit pas fier, le soufflette parfois. Aveu touchant et qu'on n'attendrait pas. On regrette de ne pas savoir ce que furent ces personnes charmantes et dangereuses au point de faire obstacle à un si grand élan. On ne sait rien de cette Lyda. Elle paraît être de Syrie, de la terre des séductions. Elle était commerçante et sans doute avisée, comme celle qui, dans Salomon, mène si bien, enrichit sa maison, fait et vend des tissus. Celle-ci vendait de la pourpre, fine et chère marchandise qu'achetaient les Romains, surtout les magistrats, prêteurs, procurateurs. Une telle marchande était d'âme et peut-être de haute volée. La suite est singulière. Il dit qu'en ses tentations, trois fois, il pria le Seigneur de se retirer de lui. « Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. » Ma vertu manifeste sa force dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités afin que la vertu de Christ habite en moi. Parole de portée dangereuse qu'on ne mesurait pas sans doute en cette pureté primitive. Les mystiques l'ont traduit par le péché, on monte. En péchant, on glorifie Dieu. Propre expression de Molinos. Paul, je crois, cependant lui-même s'indignait de ces fluctuations. On croit le sentir aux paroles violentes qu'il adresse à la femme pour l'humilier, lui recommandant durement le silence, la soumission, lui rappelant qu'en l'homme est l'image de Dieu et qu'elle n'est créée que pour lui, qu'elle ne doit prier que voilée, que ses longs cheveux ne lui ont été donnés que pour cela, etc., etc. Cette violente sortie ferait croire que la femme sera tenue loin de l'autel. Mais le contraire arrive. Elle est prêtre, officie, consacre. Cela pendant 400 ans. Paul lui-même se dément. Arrivé à Corinthe, il voit bien que la femme grecque, avec la beauté noble, la bouche d'or, éloquente et subtile, sera son grand auxiliaire. La brillante, Phébé, autre nom d'affranchi, est déjà le ministre actif, le factotum de l'église de Corinthe. Elle est diacre pour commencer. Les premiers compagnons de Paul, Barnabé, Thècle ne sont plus avec lui. C'est Phébé qui est tout. Elle le loge, elle écrit pour lui sous sa dictée. On n'en sait pas la cause. Était-il malade? Et qu'écrit-elle? Le plus violent écrit de saint Paul. Ici, on dit expressément ce que nous aurions deviné, que cette fougueuse éloquence, vive mais décousue, qui va par saut, par bond, tellement outrageuse pour la logique et la raison, n'est pas écrite. Un juif d'Asie mineure, du lieu où se mêlaient les langues, voyageur de commerce, marchand de Cilicie, la Babel des pirates qui crasa Pompée, devait parler un grec fort mêlé d'hébraïsme, de patois gréco-syrien. Mais l'ardeur et l'audace, le violent esprit qui l'emportait ne s'arrêtait guère à cela. Il parlait, tonnait, foudroyait. Ces Grecs de main rapide, ces dames si zélées, recueillaient, écrivaient au vol. Le plus souvent, on dut traduire. Et on le faisait sans scrupule, tous ils vivaient de la même âme, mais non pas sans péril. Car des choses pensées en hébreu, lancées en mauvais grec au hasard de l'inspiration, n'arrivait guère à un grec tolérable qu'à travers de graves changements, des mutilations, des coupures qu'on ne sent que trop bien au choc, au soubresaut, comme d'une course bride abattue sur un terrain très raboteux. Œuvre complexe et collective. Cette épître aux Romains, la Marseillaise de la grâce, la risée de la loi, a bien l'air d'être faite par toute l'église de Corinthe. Saint Paul y mit l'éclair, Phébé la plume ingénieuse. Un tiers put influer, l'important personnage dont Saint Paul envoie le salut à la maison de l'empereur, Éraste, trésorier du fisc au port qui concentrait alors tout le commerce de la Grèce. Une révolution profonde avait lieu dans l'Empire. Au prêteur, l'homme de l'État, l'empereur, presque partout, substituait son procurateur, son agent, l'homme de sa maison, de ses intérêts propres, qu'il fût romain ou non, n'importe, souvent un de ses affranchis. Tel put être, avec son nom grec, cet Éraste, ami de saint Paul. Créé d'hier par Claude ou par Néron, ce représentant du gouvernement personnel, de la faveur et de la grâce, était fatalement, comme saint Paul, l'ennemi de la loi et l'adversaire né du juriste. Toute l'épître est en ce mot « La loi seule faisait le péché. La loi morte, le péché est mort. » Parole a plusieurs sens. Ce mot « loi » chez les Juifs veut dire « loi mosaïque ». Dans l'Empire, « loi romaine ». Et selon l'esprit grec, la loi de conscience et la naturelle équité. Mais est-il donc certain que les tables de pierre et les tables d'airain brisées, l'interdiction du mal étant biffée, le mal est disparu du monde, qu'on ait aussi biffé la justice éternelle? Règne dans Eschyle et Socrate, dans Zénon, l'Abéon, la justice redevient servante. Que dis-je? Elle a péri dans l'amour et la foi, dans la divine ivresse et l'orgie de la grâce. On voit avec quelle force la révolution administrative et la révolution religieuse concordaient, à quel point l'agent du bon plaisir, l'intendant de César, devaient s'entendre avec Phébé, avec l'apôtre d'Orient. Leur manifeste à Rome, à la cité du droit, a ce sens précis, mort au droit. Phébé ne se fit à personne pour porter cette lettre au palais de Néron, aux amis de Narcisse. Cela est dit expressément. Je dis Néron et non pas Claude, car Claude avait chassé les Juifs. On n'eût guère pu sous lui envoyer cette ambassade d'une secte qu'on croyait alors toute juive. Phébé n'allait pas désarmée. Elle emportait deux clés qui, bien facilement, devaient ouvrir la maison de l'empereur. Les vrais maîtres de la maison, les Narcisses, les Pallas, ce peuple d'affranchis, fort souillé, n'en était que plus livré aux idées d'Orient. Tous les dieux étaient là, et les petits cultes cachés, mystères de toutes sortes, expiations et purifications, une épaisse vapeur de vices et de remords, de panique et de mauvais songes. Les flagellants d'Atis y étaient certainement, et déjà peut-être l'immonde taurobol, lavage de sang. Quelle force pour Phébé d'arriver avec le mot simple qui renvoie tout cela et le rend inutile. Bonne nouvelle, le péché est mort. Autre clé pour ouvrir. Jésus, le maître, a dit « Rends à César », etc. Paul, le disciple, a dit « Sois soumis aux puissances ». Qui résiste, résiste à Dieu. A quitté le tribut aux princes, les ministres de Dieu qui s'appliquent toujours aux fonctions de leur ministère. Et Pierre dit franchement, obéis même au mauvais maître. Pierre 1, 2, 18, 20. Il ne s'agit pas d'obéir de fait et d'action, mais aussi de pensée. Il ne s'agit pas d'obéir en faisant la réserve juive, les princes se multiplient par les péchés du peuple, sont des fléaux de Dieu. Nulle réserve. Il faut se dompter et obéir en conscience, servir de cœur, aimer. Aimer Tibère, aimer Néron. Esclavage nouveau, creusé sous l'esclavage. Grand et ingénieux approfondissement de toutes les servitudes antiques qui, au Moyen-Âge et depuis, a fait de tous les princes de très zélés chrétiens. Le grand fait du moment, le règne personnel du César, dégagé de l'idée de magistrature, du César maître de la loi, devenu la loi même en son procurateur, recevait du dogme nouveau une consécration merveilleuse. Ne devait-il pas accueillir cette voix d'Orient, ce Messie qui voulait qu'on obéît du fond de l'âme? Néron, à son avènement, quoique docile encore à ses maîtres romains, était déjà entouré en dessous des affranchis qui régnaient jusque-là d'un monde fort mêlé qui amusait sa fantaisie d'artiste. Les uns poètes et déclamateurs, les autres charlatans, ministres de tout Dieu. Néron était pour eux une proie naturelle par sa vaste imagination désordonnée. Sa tête était pleine et crevait. Il roula des choses énormes et dans mille sens divers. Serait-il le César de Rome et des jurisconsultes, ou l'artiste suprême, l'empereur de la poésie, ou le restaurateur du génie d'Orient, un Mitra, un Messie? Il ne le savait pas encore. Il voulait être aimé. Élevé par Sénèque, généreux stoïcien qui dînait avec ses esclaves, il avait pris en main la cause des affranchis. Il méditait une immense utopie, l'abolition d'impôts. L'idéal stoïcien se fut réalisé au terme de Zénon, l'amour salut de la cité. Mais qu'il est vague, obscur ce mot d'amour, l'amour sans la justice, l'amour de caprice et faveur peut devenir l'enfer, nullement le salut, mais le fléau de la cité. L'un des plus grands débats qui ait eu lieu au monde, c'est celui qu'on devine, qui sans nul doute eut lieu, de la femme et du stoïcien, à ce moment suprême, au palais de Néron, et qui sait, devant lui peut-être. Nous l'avons dit, la femme, aux quatre premiers siècles, jusqu'en l'an 369, est prêtre, le vrai prêtre chrétien. À elle de défendre la foi qui sortit de la femme. Mais combien différent est le rôle des deux adversaires. Le stoïcien remonte la pente universelle du monde, et elle, à plaisir, la descend. Le stoïcien, chose odieuse qui doit le faire haïr, à ce monde épuisé, fatigué, commande l'effort, ordonne le travail. Oh, qu'aisément Phébé répondra méprisante, le Lys ne travaille ni ne file, il est mieux vêtu que César. Juristes ou stoïciens, magistrats, philosophes, ils demandent une chose énorme, insupportable à un monde malade qui s'arrange si bien pour dormir, de vouloir veiller, vivre encore. Qu'il aime mieux cette voix de nourrice invitant au sommeil, voix suave de femme et non sans volupté qui dit « Quelle douceur de mourir !» Mourir, être affranchi des liens de ce corps, heureuse perspective. Ce corps, c'est le travail, le souci de l'impôt, c'est le poids de la loi. Ce corps, c'est la milice, la guerre chez les barbares, l'exil aux reins glacés. C'est la défense des frontières. Là, le juriste est fort. Il croit arrêter la chrétienne, il croit l'embarrasser. Mais elle, souriante, quoi, repousser nos frères du Nord qui viennent au-devant du salut? Il faudrait bien plutôt les prier de venir, ouvrir les portes, abattre, renverser les murs de nos villes. Mais l'Empire, mais nos lois, nos arts, pourquoi des arts? Mais la patrie sacrée, la cité, cette vaste harmonie de sagesse et de paix. Point de paix ici-bas, nulle cité que celle d'en haut. À bas, vaine sagesse, baissez les yeux, raison, faites amende honorable par devant la folie de Dieu. Toi, justice et jurisprudence, c'est toi qui es l'ennemi. Je te reconnais orgueilleuse, mère hautaine des vertus humaines, descends de ton prétoire. Plus haut que ton faux juste, désormais siège le pécheur. Son péché est le champ où triomphe la grâce. Quelle risée, quel mépris Phébé fera de la loi Julia, de cette glorification officielle du mariage. Quoi, se lier encore, engendrer pour un monde qui va mourir demain? Perpétuer cette chose basse, le corps que Dieu veut abolir. Grâce à lui, le désert se fait, s'étend. Dans nombre de provinces, déjà l'Empire est épuré. Encore quelques fléaux, tous seront délivrés. Époux, fuyez l'épouse, qu'on s'éloigne et s'isole. D'autant plus promptement va le siècle à son terme et s'emplit la cité de Dieu. Augustin. La mort est l'argument suprême et sans réplique. Phébé prêche sa cause sur la tombe de 100 nations. Leur dieu, au Panthéon, déjà froid, les yeux vides, dans l'apparent combat, sont des lutteurs commodes pour la prêtresse de la mort. S'ils avaient pu répondre, ils auraient dit peut-être que la nouvelle foi, triomphant par la femme, suivait, malgré Paul lui-même, le chemin de l'Antiquité. Paul l'a voulu voilée, muette et dépendante. Je la vois à l'autel qui prêche et civilise, enseigne l'homme, lui dit, lui fait son Dieu. Moyen puissant, charmant, tout naturel au fond, dont les cultes antiques n'avaient pas abusé. La sombre Iphigénie, la Sibylle écumante, eurent moins d'attrait que de terreur. Obéissante, silencieuse, la Vestale fut une statue. Celle-ci est vivante, elle parle, officie sur la tête du peuple, le bénit, prie pour lui, elle est sa voix près de Jésus. Tant que les déesses de l'art, filles du ciseau grec, ne furent point abattues, pendant 4 longs siècles, à leur morte beauté, l'on opposa la vie, la Sophia visible, le pontificat de la femme. La muette Cérès ne put lutter beaucoup quand la Cérès nouvelle charmait l'agape antique, donnait le pain sacré. Pallas, la Vierge austère, dut finir tout à fait lorsque la Madeleine dramatisait l'autel, le baignait de ses pleurs. Que dit-elle à ce monde mourant ? Mourons ensemble, tendre et doux mots de sœur, trop sûrs d'être écoutés. Que serait-ce pourtant, si l'on restait toujours suspendu sur ce mot, ne pouvant plus ni vivre encore, ni mourir tout à fait ?